Bonsoir chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Présence et Liberté, l'émission de Sam Brown et Jean Moreau. Dans le studio avec Jean Moreau, notre ami Jean-Claude Jacquet. Ce soir, ils accueillent Madame Brigitte Lemaine, sociologue et réalisatrice. Petite fille de sourd, Madame Lemaine va nous parler des sourds dans la loi d'hygiène raciale des nazis. Témoin sourd, témoin silencieux. Merci à David à la cabine technique. Jean Moreau, à vous l'antenne.
Chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir, Madame Brigitte Lemaire. Si nous commencions ainsi, on s'apparente à un voyage initiatique. C'est la séparation, le temps des épreuves et parfois l'intégration. La séparation, c'est la découverte affolée du l'amour parfois violé, défiguré. Le temps des épreuves, la descente aux enfers, la fatigue et puis parfois le plus. Vous, Madame Brigitte Lemaire, vous êtes dans la culture sourde, expliquez-nous.
Oui, je suis de grands-parents sourds. Mon grand-père et ma grand-mère étaient sourds. Ils ont eu ma mère, qui était entendante. Et ma mère a souhaité que je sois élevée par mes grands-parents, parce qu'elle travaillait. Donc j'ai été élevée en langue des signes par mes grands-parents sourds, depuis toute petite, tout bébé. Donc la langue des signes est ma langue maternelle.
Et par ailleurs, vous êtes sociologue, documentariste engagé. Vous avez rencontré des gens extraordinaires, il faut tout de même dire au moins quelques mots de deux d'entre eux, Jean Rouch et Jean Baudry.
Oui. Ben oui, j'ai fait mes études à Nanterre, maintenant on dit Paris 10, mais donc à l'université de Nanterre en sociologie, et j'ai eu la joie de faire une licence option cinéma avec Jean Rouch et son assistant Xavier de France, et donc... Ben, j'ai appris un peu les techniques de l'ethnographie appliquées au film.
C'est-à-dire que, en somme, le lieu culturel d'où vous êtes venu vous a ouvert à toutes les autres cultures, puisqu'avec Jean Roux, c'est le grand africaniste.
Oui.
Ici, c'est toute la riche tradition du judaïsme. Et puis, nous allons parler aussi de la culture sourde. Votre grand-père était à l'école Estienne.
Oui, mon grand-père était le premier élève sourd à l'école Estienne. Sa mère était veuve de guerre et elle avait constaté qu'il dessinait beaucoup et elle pensait qu'il était prêt pour passer le concours, mais les sourds, ils n'avaient pas le droit de passer le concours. Donc elle a écrit au ministre et il a donné une autorisation de passer le concours. Ça a permis à deux autres sourds de le passer en même temps de mon grand-père qui venait d'une institution à Asnières. Et donc, ben, il l'a eu. Il est rentré en 1920 à l'école Estienne. Il en est sorti diplômé en 24. Et il est devenu lithographe. Écrivain lithographe, on dit.
Et à une époque où il y avait... le handicap était souvent rejeté. Une histoire un peu de la surdité. Vous allez pour chacun d'entre eux nous dire trois mots. L'abbé de l'épée... l'abbé Sicard, et puis peut-être après le double bagne qui frappe les sourds.
Alors bon, être dans le monde des sourds, c'est apprendre à connaître un peu une histoire qui est parallèle, qui est un au-delà. C'est-à-dire les entendants ne connaissent pas l'histoire des sourds. Mais quand on est dans le monde des sourds, par exemple, on a une grande admiration pour l'abbé de l'épée, qui était un abbé excommunié parce que janséniste, qui a consacré sa vie à vouloir enseigner la lecture et l'écriture aux sourds, qui a inventé l'alphabet en langue des signes, pas la langue des signes qui existait depuis toujours, mais l'alphabet en langue des signes, qu'il a mis au point en observant deux sœurs sourdes qui se parlaient. Il a voulu leur apprendre à écrire, donc il s'est dit, tiens, si on faisait un alphabet en langue des signes, elles comprendraient comment écrire et comment et plus tard lire. Et puis, il a fondé une école rue des Moulins, et puis cette école a été adoptée par la République. Il est mort en 1789 dans la misère, de faim. Et la République a adopté son œuvre, ses élèves, et a créé l'Institut Saint-Jacques ainsi que 4 autres établissements où on enseignait, selon sa méthode, d'apprentissage de la lecture, de l'écriture en langue des signes.
Alors, lui succède plus tard, quelques années plus tard, Bébian, qui sera en quelque sorte le porte-parole des sourds, le responsable de l'Institut. Mais ce qui m'intéresse pour l'émission et pour nos auditeurs, c'est ce double bagne dont nous parlions tout à l'heure. Au 19e siècle.
Eh bien, alors, au 19e siècle, d'abord, les établissements pour sourds sous Napoléon passent de l'instruction publique au ministère de l'Intérieur. Donc ça
jusqu'en 1935.
1921. Et ça a été découvert en 1935, oui, effectivement.
Et, c'était intéressant.
Mais oui, tout d'un coup, on dit que c'est les directeurs de prison qui vont diriger les institutions pour sourds, comme les maisons de correction. Bah,
L'exclu, l'opprimé, le déviant est considéré comme relevant du ministère de la police.
Voilà, c'est un délinquant. C'est une forme de délinquance d'être sourd, quoi. Et puis en 1880, le congrès de Milan interdit la langue des signes à l'enseignement et la France ratifie, ainsi que de nombreux pays. Ça a pour conséquence que les professeurs sourds qui étaient dans ces établissements sont virés du jour au lendemain et que la langue des signes est bannie. Donc, le lobby médical prend possession du monde sourd. C'est la rééducation. On dit qu'il n'y aura plus de sourds, il y aura des opérations, il y aura de la rééducation. Ça, on n'a plus besoin de la langue des signes.
On a une vision qui invoque la science et qui, en fait, s'inspire du darwinisme social. Nous en reparlerons peut-être dans quelques instants. Il y a une réflexion que vous avez dite et qui nous a extrêmement intéressés. Vous dites que la langue des signes a toujours existé.
Oui.
La gestuelle a toujours existé, en particulier chez les opprimés. Vous voyez, je pense à telle ou telle population dans le monde opprimé. Elle s'exprime soit par des gestes, soit par des danses de combat, dont les noms varient selon les pays, soit également par des bruits faits avec les lèvres pour avertir que l'ennemi ou l'exploiteur survient. En prison ou dans des lieux où on est très emprisonné, notamment parfois les hommes, on connaît ce type de réaction pour se défendre.
Oui, tout à fait. Dès qu'il y a de la terreur, il y a la loi du silence. Donc, quand on ne peut pas parler, on essaie de s'exprimer autrement. Donc, les signes ont existé aussi ailleurs que dans le monde des sourds. Mais la langue des signes, c'est une vraie langue. Elle a existé depuis que les sourds existent. Donc, ce n'est pas simplement une gestuelle ou un code qui est mis en place. C'est une vraie langue.
Avec son histoire, ses signes, ses symboles, sa méthode, sa rationalité.
Oui, c'est au même titre que le chinois, les idéogrammes.
Ouais,
voilà, c'est une langue. Alors, au lieu de s'écrire sur le papier, elle s'écrit dans l'espace. Mais il y a une base à peu près, on peut dire, en langue des signes française, de 800 signes. Les dictionnaires vont entre 800 et 1200 signes. Puis un érudit, un professeur, etc., peut aller jusqu'à 10 000 signes. C'est comme un mandarin chinois. On apprend des signes tous les jours, au fur et à mesure de ses voyages, de ses fréquentations. Bon, c'est une langue comme ça.
Et qui d'ailleurs, aujourd'hui, on demande de plus en plus dans des congrès, faire venir des interprètes pour s'exprimer en langue des signes. Transition avec la seconde partie de l'émission. L'attitude que l'on a eue pendant longtemps vis-à-vis du handicap, qui est une attitude d'exclusion, c'était l'histoire de la nef des fous, ou l'histoire de considérer les personnes handicapées comme on a pu considérer les Indiens, en les mettant dans des réserves. Tout cela évoque le darwinisme social qui fera florès au XIXe siècle. C'est le cousin du grand Darwin, Galton, qui l'organise, c'est aussi le scientisme. Et en somme, c'est tout le problème qui va se poser avec les systèmes qui oseront se réclamer d'un certain positivisme, de la science, et qui inspirera plus tard la médecine nazie. Avant, nous allons peut-être écouter un témoignage d'un fils de médecin nazi puisque pour les nazis, il s'agissait aussi d'éliminer les personnes handicapées.
Il s'agit d'un très court extrait d'un ouvrage qui s'appelle « L'héritage infernal, des filles et des fils de nazis racontent ». Ce livre a été écrit par Dan Barron et paru dans la collection « Mémoire du siècle » aux éditions Échelle. Vers mes 18-19 ans, donc c'est un fils de nazi qui parle. Vers mes 18-19 ans, je voulais devenir pasteur, bien que ma mère ne soit pas d'accord. Peut-être que j'aurais dû le faire. Le passé a joué et continue de jouer un rôle important dans ma vie, en ce que j'éprouve une certaine responsabilité morale. Mon père était un Autrichien très prussien, très conscient de son devoir. C'est pour ça qu'il n'a jamais essayé de se dérober. Ensuite, il était sous leur coupe. Moi, si j'avais compris ce qui se passait, je me serais désengagée à temps. En ce qui concerne l'euthanasie, je pense qu'il aurait dû trouver un moyen de ne pas participer. Certes, il est surprenant pour un homme de 30 ans de se trouver du jour au lendemain propulsé à un poste important. Les nationaux-socialistes savaient ce qu'ils faisaient en attribuant des fonctions prestigieuses à des hommes jeunes. L'orgueil faisait le reste. Pour mon père, en y réfléchissant bien, je crois que le camp de la mort a été un tournant décisif. Ça a été un moment crucial dans sa carrière pour son avancement.
Je vous remercie. Au fond, l'un des thèmes de cette émission pourrait être « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime ». Ce qui est frappant et caractéristique de l'idéologie nazie, c'est que d'un certain côté, elle se réclame de l'instinct, de la vitalité, du paganisme, et de l'autre, d'un rationalisme absolu pour, qui montre que la raison n'est jamais qu'instrumentale au service d'une bonne ou ici d'une mauvaise fin. Alors, vous allez nous rappeler comment des scientifiques se sont alliés à l'extermination des Juifs et aussi de tous ceux qui étaient considérés comme dégénérés, montrer que cela procède d'un système.
Eh bien oui, moi j'ai pu constater à partir d'un article qui a été écrit par Jochen Muss, qui est un chercheur sourd, à partir de la loi d'hygiène raciale qui a été prise dès 1933, donc dès
le 14 juillet 1933.
Oui, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il fallait se débarrasser des handicapés. Et parmi eux, les sourds. Bon, je suis plus concernée par les sourds, mais je vais parler aussi des handicapés.
Des législations avaient précédé aux États-Unis, peut-être la première en 1907, sur les Indiens en Suisse ou au Danemark.
Oui, oui, bien sûr, en Suède aussi. Et là, donc j'ai réalisé un film qui s'appelle « Témoins sourds, témoins silencieux ».
Avec un film magnifique.
Avec Stéphane Gatti. Et là, au cours d'une enquête de cette année, je me suis rendu compte que des médecins s'étaient mis au service de cette extermination. Et au départ, il y avait seulement 6% des médecins en 33 qui pratiquaient les stérilisations puis l'euthanasie, et en 42 on peut s'apercevoir qu'ils deviennent 50%. Comment c'est possible que les médecins qui sont formés à soigner deviennent des tueurs?
Des médecins, alors il faut citer, je pense, von Verscher, Fischer, un autre Verscher, et puis auparavant il y a aussi toute une série de scientifiques en France, Broca et Vacher de la Pouche. Alors comment l'expliquez-vous? Pourquoi? C'est toujours la question la plus difficile.
Eh bien, dans le film, Claire Ambroselli, qui est une spécialiste de cette période et historienne, explique qu'il y a un livre de Binding et Hoare en 1920 qui contient toute la loi déjà en Allemagne. Et cette volonté, cette surpuissance, je dirais, de la médicalisation pour laver la race, nettoyer la race, que ce soit une race pure, c'était leur obsession, va donner lieu donc à toute cette politique de stérilisation, d'extermination, de déportation.
Et alors là aussi, cette conception part toujours de prétentions rationnelles. Il y a eu, à partir du XVIIIe, mais surtout du XIXe siècle, ce souci de classer la taxinomie, ce qui aboutit à un délire classificatoire. Certes, le classement est intéressant, est utile pour des repères, mais le rigidifier aboutit à ces folies que l'on connaît. Jean-Claude.
Oui. Je me souviens également que dans les années 20, je crois, le comité Nobel a attribué son prix à Alexis Carrel pour un ouvrage « L'homme, c'est inconnu » où l'auteur prône pour l'amélioration de la race, pour, il le dit, prône l'élimination des déviants en général, y compris même des homosexuels, de tous ceux qui peuvent ne pas être dans la norme physique ou mentale selon ses critères. Et il a eu un prix Nobel.
Oui.
Et il y a des rues en France qui portent son nom, rue Alexis Carrel.
Ah oui. On a réussi à supprimer la rue Richepans, qui était celui qui avait
effectivement
contribué à rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Mais Alexis Carrel sévit toujours dans les rues. Eh bien, madame, j'aimerais que vous nous parliez de la thématique de votre film.
Le film est un documentaire. Il réunit des historiens et des témoins sourds pour faire la lumière un peu sur ce qui s'est passé pour les sourds. Il faut savoir que comme la langue des signes était interdite, les sourds n'ont pas pu témoigner. Il y en a très peu qui sont revenus des camps. Et en ce qui concerne la France, pas du tout. On sait qu'il y a 210 sourds juifs qui ont été déportés. Les autres se sont cachés, mais dans ces 210 sourds juifs, aucun n'est revenu. Donc personne n'a pu dire ce qui s'était passé. Et il y a eu aussi des stérilisations, mais les personnes dans les associations, les personnes nazies n'ayant pas été poursuivies, les gens stérilisés n'ont pas pu dire non plus en Allemagne qu'ils avaient été stérilisés. Donc il a fallu attendre que Horst Bisol, qui est un chercheur allemand, qui était un formateur de professeurs pour sourds, qui s'est aperçu de cette stérilisation, fasse sa recherche, écrive son livre « Crying Hands » et fasse toute une enquête et un petit film dans les années 70 pour qu'on s'aperçoive que des sourds avaient été stérilisés, exterminés, déportés. Donc j'ai interviewé Horst Bisol dans mon film. Et puis, des témoins sourds qui souhaitaient témoigner. Donc, Kurt Eisenblatter, qui est un grand mime sourd de l'époque de la RDA, qui a pu échapper. Son frère, sa sœur ont été stérilisés. Lui, il est parti avec sa mère se cacher. Et donc, il a échappé. Et c'est un des seuls sourds en Allemagne à avoir pu avoir des enfants. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ces témoignages.
Je rappelle à nos auditeurs que nous interviewons Madame Brigitte Lemaire, réalisatrice d'un film Témoin sourd, témoin silencieux, qui évoque le sort fait aux sourds dans le système nazi. Je rappelle aussi que ce système avait pour but d'améliorer la race. Dans Mein Kampf, Hitler disait: il s'agit d'un combat pour la santé de la race aryenne, et que toute une bonne partie de l'intelligentsia scientifique participait à ce système et ne faisait après tout que de s'inspirer de théories pseudo-rationalistes qui existaient depuis un certain temps dans le monde, en particulier la première loi de ce type, une loi eugéniste californienne de 1909 qui voulait améliorer la race, le cheptel humain, l'être humain considéré comme un animal. Madame, vous allez nous parler aussi de ce système. Parce que dans toute cette affaire, c'est le silence et la parole. Comment faire témoigner les silencieux? Comment transmettre témoignage? Et de l'autre côté, c'est aussi l'opération secrète, silencieuse d'élimination. Deux silences, en somme, s'affrontent. Parlez-nous donc de cette opération secrète d'élimination des inaptes, baptisée Action T4, et dont je crois vous parler dans votre film.
Oui, absolument. Bah, écoutez, l'Action T4, ça commence à Tiergartenstrasse, c'est-à-dire le lieu du bureau où se trouve...
Le quartier général.
Voilà, le quartier général, où se trouve...
à Berlin.
La personne, voilà, à Berlin, qui va décider d'éliminer les gens dans les hôpitaux psychiatriques.
Avec six centres de mise à mort... Le caractère anonyme est intéressant, silence contre silence,
oui.
Silence des opprimés contre silence des tueurs. Les centres A, B, B, E, C, D, E, je crois qu'ils correspondent chacun au nom d'une ville.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai tourné à Hadamar, parce qu'il y a un musée, et là, on se rend très bien compte, c'est un hôpital, sauf que les sous-sols ont été aménagés avec une chambre à gaz, avec des pièces pour découper les cadavres, etc. Je passe les détails. Et ça, dès 1940. Hein, c'est-à-dire, on amène les personnes à exterminer dans des bus avec des rideaux noirs. Donc, on ne sait pas qui est dans ces bus. Et puis, on les passe tout de suite à la chambre à gaz. Donc, c'est là, les premières chambres à gaz, en fait, sont expérimentées là. Et quand on a tué tout le monde, eh bien, les mêmes personnes qui ont fait ça, on les envoie à Auschwitz puisqu'elles connaissent la technique et elles vont savoir comment faire. Voilà. Donc c'est le début.
C'est en somme l'euthanasie, l'élimination de ceux que l'on appelle à l'époque des dégénérés, sert de laboratoire pour éliminer la race, entre guillemets, juive.
Oui.
C'est cela.
Oui. Il y a des gens qui ont résisté, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas voulu pratiquer, des infirmières, puis il y a aussi un prêtre qui a réussi à faire arrêter cette extermination en ce qui concerne l'Allemagne.
Oui. Hein.
Mais ça a continué d'un point de vue sauvage, je dirais, dans les territoires slaves, et on peut dire, même en France, là tout le monde va me tomber dessus, mais... Il y a eu des problèmes aussi dans les hôpitaux français, puisqu'on laissait les gens mourir de faim, on le sait très bien, dans les hôpitaux psychiatriques.
Des milliers dans les hôpitaux psychiatriques, puisqu'il s'agissait d'éliminer les incurables, les vieillards séniles, les alcooliques, les impotents, les grabataires, les asociaux, et on peut continuer, les indigents, les vagabonds, les prostituées, les enfants qui se révoltent, enfin tout ce qui ne va pas en quelque sorte.
Oui.
Eh bien, on est, je crois, là au centre du problème. Vous évoquiez une personne, un prêtre catholique ou protestant qui résistait. Cela pose un problème. Le bourreau comme le juste ont tous les deux la même parole étonnante. Je ne pouvais pas faire autrement. Il me semble que dans celui qui résiste, il y a ce qu'un sociologue et un philosophe a appelé dernièrement une grande présence à soi. Qu'en pensez-vous?
Oui, tout à fait. Celui qui résiste, heureusement, il existe. Hein. Moi, je voudrais citer une phrase qui me touche beaucoup d'un pasteur protestant, parce qu'elle résume bien ce que c'est que quand les gens disent que ce n'était pas possible. C'est Martin Niemöller. Interné par Hitler de 38 à 45, il écrivait « Lorsque les nazis vinrent chercher les communistes, je me suis tu. Je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je me suis tu. Je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tu. Je n'étais pas juif. Et lorsqu'ils ont cherché les catholiques, je me suis tu. Je n'étais pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. »
Eh bien, je vous remercie, madame. Il me semble que cette phrase est encore d'actualité dans la réalité sociale et dans le monde difficile où nous sommes. Je vous remercie. C'était l'émission Présence et Liberté, une émission de Jean Moreau et de Sam Braun. Bonsoir.